Il y a bien sûr le 7 octobre qui restera toujours gravé douloureusement dans nos cœurs. Et depuis quelques jours, l'Iran s'attaque à des hôpitaux, à des maisons, à des civils un peu partout dans le pays. Ce n'est pas la première fois qu'un pays veut exterminer Israël et attaque au cœur du pays. Cette sirène qui vient de retentir, c'est le 23 février 1991 à Jérusalem. On est en pleine guerre du Golfe. Saddam Hussein, le dictateur de l'Irak, a promis de détruire Israël. Malgré tout, les Israéliens sont venus écouter Isaac Stern au théâtre de Jérusalem, et ce malgré les menaces. Les musiciens de l'orchestre ont quitté la scène. Mais Isaac Stern, lui, est resté. Et une fois l'alerte terminée, il joue du Bach devant le public qui est resté et qui a mis des masques à gaz, car l'Irak a lancé des menaces d'attaques chimiques. Cette représentation surréaliste est à l'image de la guerre du Golfe de 1991. Une guerre dont Israël n'est pas un des acteurs, mais en subit les effets collatéraux, sans pouvoir réellement se défendre. Mais faisons un petit retour en arrière. L'Irak a mené pendant 8 ans une guerre contre l'Iran. Elle a gagné cette guerre en 1988, mais son économie est ruinée. Et Saddam Hussein, qui règne sans partage sur l'Irak depuis 1979, regarde du côté de son petit voisin, le Koweït, avec toutes ses richesses en pétrole. C'est une aubaine pour renflouer les caisses de Bagdad. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le recours à la force contre l'Irak si elle n'évacue pas le Koweït avant le 15 janvier 1991. Le président américain George Bush constitue une coalition militaire pour libérer le Koweït. Ce sera la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis vont rassembler 38 pays qui vont fournir 900 000 combattants. Parmi eux, il y a des pays arabes comme l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Égypte. La France de François Mitterrand envoie elle aussi des troupes. La Conférence internationale islamique appelle les musulmans à soutenir l'Irak au nom du djihad, la guerre sainte. Yasser Arafat, le chef de l'OLP, et la Jordanie appuient l'appel au djihad. Le roi Hussein de Jordanie demande à rencontrer en secret Yitzhak Shamir, le premier ministre israélien. Vous devez nous comprendre, on dépend trop de l'Irak du point de vue économique. Saddam Hussein se moque des ultimatums de l'ONU, car il a une seule obsession, détruire Israël. À Jérusalem, on connaît bien Saddam Hussein. Déjà le 7 juin 1981, Israël avait détruit la centrale nucléaire Ozirak, à proximité de Bagdad. Rappelons que cette centrale avait été fournie par la France. George Bush demande à Israël de ne pas lancer des attaques préventives contre l'Irak pour ne pas mettre en difficulté sa coalition, car elle comporte des pays arabes qui sont officiellement en guerre avec Israël. Tsahal doit alors ranger ses plans d'attaque du quartier général de l'armée irakienne et du palais de Saddam Hussein. Les Israéliens se préparent à cette drôle de guerre. Ils calfeutrent les portes et les fenêtres. Ils achètent des provisions en quantité. Ils aménagent des chambres étanches où ils devront se réunir en cas d'attaque chimique et ils ne se séparent plus de masques à gaz. Tel Aviv se vide d'une partie de ses habitants. Ils vont se réfugier à Jérusalem ou à Eilat, qui semble être plus sûr. Des discothèques organisent des soirées sur le thème « C'est la fin du monde ». Le 17 janvier 1991, les Alliés lancent leur première frappe aérienne sur les troupes irakiennes. Immédiatement, Saddam Hussein envoie des missiles, des scuds sur Tel Aviv. En Judée-Samarie, n'oublions pas qu'on est en pleine première intifada. Des Palestiniens montent sur les toits pour applaudir l'Irak. La guerre va durer 6 semaines. 39 scuds vont s'abattre sur Israël, faisant surtout des dégâts matériels. On va déplorer quelques morts et des blessés. Mais entre-temps, les États-Unis vont envoyer des missiles antimissiles, les Patriotes, pour protéger Israël. Le 28 février, la guerre va s'arrêter. Les Alliés ont libéré le Koweït. Le 28 février, c'est aussi Pourim. Et on se souvient que le rabbi de Lubavitch avait annoncé que la guerre s'arrêterait à Pourim. Le premier soir, quand des scuds sont tombés sur Tel Aviv, la radio a diffusé en boucle la chanson d'Arik Einstein, Tse Mise, qui commence par ces paroles « Shuv lo shasheket »« À nouveau, pas de calme ». Le 28 février 1991, le calme est revenu, mais pour combien de temps ?